Chapitre 17, qui pourrait sans inconvénient être très justement intitulé « Du même au même ». Il ne restait plus au navigateur de la Dobryna qu'à revenir à l'île Gourbille. Cet étroit domaine était vraisemblablement la seule portion de l'ancien sol qui pût recevoir et nourrir ce que le nouvel astre emportait dans le monde solaire. Et après tout, se dit le capitaine Servadac, c'est presque un morceau de la France. Ce projet de retour à l'île Gourbille fut donc discuté, et il allait être adopté lorsque le lieutenant Procope fit observer que le nouveau périmètre de la Méditerranée n'était pas encore entièrement reconnu. « Il nous reste à l'explorer dans le nord, » dit-il. « Depuis ce point où se projetait autrefois le cap d'Antibes, jusqu'à l'entrée du détroit qui s'ouvre sur les eaux de Gibraltar, et dans le sud, depuis le golfe de Gabès, jusqu'à ce même détroit. » Nous avons bien suivi au sud la limite que dessinait l'ancienne côte africaine, mais non celle que forme la nouvelle. Qui sait si toute issue nous est fermée au midi, et si quelque fertile oasis du désert africain n'a pas échappé à la catastrophe? En outre, l'Italie, la Sicile, l'archipel des Baléares, les grandes îles de la Méditerranée ont peut-être résisté, et il serait convenable d'y conduire la Dobryna. « Tes observations sont justes, Procope, » répondit le comte Timachef. « Et il me paraît indispensable, en effet, de compléter le levier hydrographique de ce nouveau bassin. »« Je me range à votre idée, » ajouta le capitaine Servadac. « Toute la question est de savoir s'il faut actuellement compléter notre exploration avant de revenir à l'île Gourbille. »« Je pense, » répondit le lieutenant Procope, que nous devons utiliser la Dobryna pendant qu'elle peut servir encore. « Que veux-tu dire, Procope ?» demanda le comte Timachef. « Je veux dire que la température va toujours décroissant, que Gallia suit une courbe qui l'éloigne de plus en plus du soleil et sera bientôt soumise à des froids excessifs. La mer se congèlera alors et la navigation ne sera plus possible. » Or, vous savez quelles sont les difficultés d'un voyage à travers les champs de glace. Ne vaut-il pas donc mieux continuer cette exploration pendant que les eaux sont libres encore ? Tu as raison, Procope, répondit le comte Timachef. Cherchons ce qui reste de l'ancien continent, et si quelques morceaux de l'Europe a été épargné, si quelques malheureux ont survécu, auxquels nous puissions venir en aide, il importe de le savoir avant de rentrer au lieu d'hivernage. » C'était un sentiment généreux qui inspirait ainsi le comte Timachef, puisque, dans ces circonstances, il pensait surtout à ses semblables. Et qui sait, songer aux autres, n'était-ce pas songer à soi? Aucune différence de race, aucune distinction de nationalité ne pouvait plus exister entre ceux que Gallia entraînait à travers l'espace infini. Ils étaient les représentants d'un même peuple, ou plutôt d'une même famille, car on pouvait craindre qu'ils ne fussent rares, les survivants de l'ancienne terre. Mais enfin, s'il en existait encore, tous devaient se rallier, réunir leurs efforts pour le salut commun. Et si tout espoir était perdu de jamais revenir au globe terrestre, tenter de refaire à cet astre nouveau une humanité nouvelle. Le 23 février, la goélette quitta cette petite crique où elle avait momentanément trouvé un refuge. En longeant le littoral du nord, elle marcha vers l'est à toute vapeur. Le froid commençait à être vif, surtout par une brise aiguë. Le thermomètre se tenait en moyenne à 2 degrés au-dessous de zéro. Très heureusement, la mer ne se prend qu'à une température inférieure à celle de l'eau douce, et elle ne présenta aucun obstacle à la navigation de la Dobryna, mais il fallait se hâter. Les nuits étaient belles. Les nuages semblaient déjà ne se former que plus difficilement dans les couches progressivement refroidies de l'atmosphère. Les constellations brillaient au firmament avec une incomparable pureté. Si le lieutenant Procope, en qualité de marin, devait regretter que la Lune eût à jamais disparu de l'horizon, un astronome, occupé à scruter les mystères du monde sidéral, se serait félicité, au contraire, de cette propice obscurité des nuits galiennes. Mais si les explorateurs de la Dobryna étaient privés de lune, ils en avaient du moins la monnaie. À cette époque, une véritable grêle d'étoiles filantes sillonna l'atmosphère, étoiles bien autrement nombreuses que celles dont les observateurs terrestres peuvent dresser la classification en août et en novembre. Et si, à s'en rapporter à M. Olmsted, une moyenne de 34 000 astéroïdes de cette espèce apparut sur l'horizon de Boston en 1833, on pouvait ici hardiment décupler ce nombre. Galia, en effet, traversait cet anneau qui est à peu près concentrique à l'orbite de la Terre et extérieur à elle. Ces corpuscules météoriques semblaient prendre pour point de départ Algol, l'une des étoiles de la constellation de Persée, et ils s'enflammaient avec une intensité que leur extraordinaire vitesse rendait merveilleuse, en se frottant à l'atmosphère de Galia. Un bouquet d'artifices formé de millions de fusées, le chef-d'œuvre d'un Ruggieri, n'eût même pas été comparable aux magnificences de ce météore. Les roches de la côte, en reflétant ces corpuscules à leur surface métallique, semblaient pointillées de lumière, et la mer éblouissait les regards comme si elle eût été frappée de grêlons incandescents. Mais ce spectacle ne dura que 24 heures à peine, tant la vitesse de Galia était grande à s'éloigner du soleil. Le 26 février, la Dobryna fut arrêtée dans sa marche vers l'ouest par une longue projection du littoral qui l'obligea à descendre jusqu'à l'extrémité de l'ancienne Corse, dont il ne restait pas trace. Là, le détroit de Bonifacio faisait place à une vaste mer absolument déserte. Mais le 27, un îlot fut signalé dans l'est, à quelques miles sous le vent de la goélette, et sa situation permettait de croire, à moins que son origine ne fût récente, qu'il appartenait à la pointe septentrionale de la Sardaigne. La Dobryna s'approcha de cet îlot. Le canot fut mis à la mer. Quelques instants après, le comte Timachev et le capitaine Servadac débarquaient sur un plateau verdoyant qui ne mesurait pas un hectare de superficie. Quelques buissons de myrtes et de lentisques, que dominaient trois ou quatre vieux oliviers, le coupaient çà et là. Il semblait qu'il fût abandonné de toute créature vivante. Les explorateurs allaient donc le quitter lorsque des bêlements frappèrent leur oreille, et presque aussitôt, ils aperçurent une chèvre qui bondissait entre les roches. C'était un unique échantillon de ces chèvres domestiques, si bien nommées vaches du pauvre, une jeune femelle à pelage noirâtre, à cornes petites et régulièrement arquées, qui, loin de s'enfuir à l'approche des visiteurs, courut au-devant d'eux, et par ses bonds, par ses cris, sembla les inviter à l'accompagner. « Cette chèvre n'est pas seule sur cet îlot !» s'écria Hector Servadac. « Suivons-la !» Ce qui fut fait, et quelques centaines de pas plus loin, le capitaine Servadac et le comte Timachev arrivaient près d'une sorte de terrier, à demi recouvert par un bouquet de lentisques. Là, une enfant de 7 à 8 ans, figure illuminée de grands yeux noirs, tête ombragée d'une longue chevelure brune, jolie comme un de ces charmants êtres dont Murillo a fait des anges dans ses Assomptions, et, pas trop effrayée, regardait à travers les branches. Lorsqu'elle eut considéré pendant quelques instants les deux explorateurs, dont l'aspect lui parut rassurant sans doute, La petite fille se leva, courut à eux, et, leur tendant les mains, d'un geste plein d'une subite confiance, « Vous n'êtes pas méchants, » leur dit-elle d'une voix douce comme cette langue italienne qu'elle parlait. « Vous ne me ferez pas de mal, il ne faut pas que j'aie peur. » « Non, » répondit le comte en italien, « nous ne sommes et ne voulons être pour toi que des amis. » Puis, après avoir considéré un instant la gentille fillette, « Comment t'appelles-tu, mignonne ?» lui demanda-t-il. « Nina. Nina, peux-tu nous dire où nous sommes ?»«
À Maddalena, » répondit la petite fille. « C'est là que j'étais quand tout a changé et tout d'un coup. »
Maddalena était une île située près de Caprera, au nord de la Sardaigne, maintenant disparue dans l'immense désastre. Quelques demandes, suivies de quelques réponses faites très intelligemment, apprirent au comte Timachef que la petite Nina était seule sur l'îlot, qu'elle était sans parents, qu'elle gardait un troupeau de chèvres pour le compte d'un rentier, qu'au moment de la catastrophe, tout s'était subitement englouti autour d'elle, sauf ce bout de terre, qu'elle et Marzi, sa favorite, avaient seules été sauvées, qu'elle avait eu grand-peur, mais que, bientôt rassurée, après avoir remercié le bon Dieu parce que la terre ne remuait plus, elle s'était arrangée pour vivre avec Marzi. Elle possédait heureusement quelques vivres qui avaient duré jusqu'alors, et elle avait toujours espéré qu'un bateau viendrait la reprendre. Puisque le bateau était là, elle ne demandait pas mieux que de s'en aller, à condition qu'on emmenât sa chèvre avec elle, et qu'on la ramenât à la ferme quand on le pourrait. « Voilà un gentil habitant de plus sur Gallia, » dit le capitaine Servadac, après avoir embrassé la petite fille. Une demi-heure plus tard, Nina et Marzi étaient installés au bord de la goélette, où chacun, on le pense bien, leur fit le meilleur accueil. C'était un heureux augure, la rencontre de cet enfant. Les matelots russes, gens religieux, voulurent la considérer comme une sorte de bon ange, et plus d'un regarda vraiment si elle n'avait pas des ailes. Ils l'appelaient entre eux, dès le premier jour, la petite Madone. La Dobrina, en quelques heures, eut perdu de vue Maddalena et retrouva, en redescendant vers le sud-est, le nouveau littoral qui avait été reporté à 50 lieues en avant de l'ancien rivage italien. Un autre continent s'était donc substitué à la péninsule, dont il ne restait plus aucun vestige. Toutefois, sur le parallèle de Rome, se creusait un vaste golfe qui s'enfonçait bien au-delà de l'emplacement qu'aurait dû occuper la ville éternelle. Puis la nouvelle côte ne revenait mordre sur l'ancienne mer qu'à la hauteur des Calabres, pour se prolonger jusqu'à l'extrémité même de la botte. Mais plus de phare de Messine, plus de Sicile, pas même le sommet émergé de cet énorme Etna, qui se dressait cependant à une hauteur de 3 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et 60 lieues plus au sud, la Dobrina revoyait l'entrée du détroit qui s'était si providentiellement offert à elle pendant la tempête et dont l'amorce orientale s'ouvrait sur la mer de Gibraltar. De ce point jusqu'au détroit de Gabès, le nouveau périmètre de la Méditerranée avait été déjà reconnu par les explorateurs. Le lieutenant Procope, justement avare de son temps, coupa donc en ligne droite jusqu'au parallèle où il retrouva les rivages non explorés du continent. On était au 3 mars. De ce point, la côte délimitant la Tunisie traversait l'ancienne province de Constantine à la hauteur de l'oasis du Ziban. Puis, par un angle brusque, elle redescendait jusqu'au 32e parallèle et se relevait en formant un golfe irrégulier, étrangement encadré dans l'énorme concrétion minérale. Alors, sur une longueur de 150 lieues environ, elle courait à travers l'ancien Sahara algérien de manière à se rapprocher au sud de l'île Gourbi par une pointe qui aurait pu servir de frontière naturelle au Maroc
si le Maroc eût encore existé. Il fallut donc remonter au nord jusqu'à l'extrémité de cette pointe, afin de la doubler. Mais en la doublant, les explorateurs furent témoins d'un phénomène volcanique, dont ils constatèrent pour la première fois l'apparition à la surface de Gallia. Un mont Inivaume terminait cette pointe et s'élevait à une hauteur de 3000 pieds. Il n'était pas éteint, car son cratère se couronnait encore de fumée, sinon de flammes. « Gallia a donc un foyer intérieur !» s'écria le capitaine Servadac lorsque le volcan eut été signalé par la vigie de la Dobryna. «
Pourquoi non, capitaine ? » répondit le comte Timachef. « Puisque Gallia n'est qu'un fragment du globe terrestre, notre astéroïde ne peut-il pas avoir emporté avec lui une partie du feu central, comme il a emporté une partie de l'atmosphère, des mers et des continents ?»«
Une bien faible partie, » répondit le capitaine Servadac, « mais suffisante après tout pour sa population actuelle. »
« À propos, capitaine, » demanda le comte Timachef, puisque notre voyage de circumnavigation doit nous ramener sur les atterrages de Gibraltar, croyez-vous qu'il y ait lieu de faire connaître aux Anglais le nouvel état de choses et les conséquences qu'il comporte ?»«
À quoi bon ?» répondit le capitaine Servadac. « Ces Anglais savent où est située l'île Gourbie, et s'il leur plaît, ils peuvent y venir. Ce ne sont point des malheureux abandonnés sans ressources, au contraire !» Ils ont de quoi se suffire, et pour longtemps. 120 lieues au plus séparent leur îlot de notre île, et une fois la mer prise par le froid, ils peuvent nous rejoindre quand ils le voudront.
Nous n'avons pas eu précisément à nous louer de leur accueil, et s'ils viennent ici, nous nous vengerons.
Sans doute en les accueillant mieux qu'ils ne l'ont fait, demanda le comte Timachef.
« Certes oui, monsieur le comte, » répondit le capitaine Servadac, « car en vérité, il n'y a plus ici ni français, ni anglais, ni russe. »«
Oh !» fit le comte Timachef en secouant la tête, « un anglais est anglais, partout et toujours. »«
Eh !» répliqua Hector Servadac, « c'est à la fois leur qualité et leur défaut. »
Ainsi fut arrêtée la conduite à tenir à l'égard de la petite garnison de Gibraltar. D'ailleurs, lors même qu'on eût résolu de renouer quelques relations avec ces Anglais, cela n'eût pas été possible en ce moment, car la Dobryna n'aurait pu, sans risque, revenir en vue de leur îlot. En effet, la température s'abaissait d'une manière continue. Le lieutenant Procope ne constatait pas sans inquiétude que la mer ne pouvait tarder à se prendre autour de la goélette. En outre, les soutes, épuisées par une marche à toute vapeur, se vidaient peu à peu, et le charbon devait bientôt manquer si on ne le ménageait pas. Ces deux raisons, très graves à coup sûr, furent développées par le lieutenant, et après discussion, il fut convenu que le voyage de circumnavigation serait interrompu à la hauteur de la pointe volcanique. La côte, au-delà, redescendait vers le sud et se perdait dans une mer sans limite. Engager la Dobryna, prête à manquer de combustible, à travers un océan prêt à se congeler, c'eût été une imprudence dont les conséquences pouvaient être extrêmement funestes. Il était probable d'ailleurs que sur toute cette portion de Gallia, autrefois occupée par le désert africain, on ne trouverait pas un autre sol que celui qui avait été observé jusqu'alors. Sol auquel l'eau et l'humus faisaient absolument défaut, et qu'aucun travail ne pourrait jamais fertiliser. Donc, nul inconvénient à suspendre l'exploration, quitte à la reprendre en des temps plus favorables. Ainsi, ce jour-là, le 5 mars, il fut décidé que la Dobryna ne remettrait pas le cap au nord et qu'elle retournerait à la terre du Gourbie, dont 20 lieues au plus la séparaient.
« Mon pauvre Ben Zoof, » dit le capitaine Servadac, qui avait bien souvent songé à son compagnon pendant ce voyage de 5 semaines, « pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de fâcheux. » Cette courte traversée de la pointe volcanique à l'île Gourbie ne devait être signalée que par un incident.
ce fut la rencontre d'une seconde notice du mystérieux savant, qui, ayant évidemment pu calculer les éléments de Galia, la suivait jour par jour sur sa nouvelle orbite. Un objet flottant fut signalé au lever du soleil. On le repêcha. Cette fois, c'était un petit baril de conserve qui remplaçait la bouteille traditionnelle, et cette fois encore, un épais tampon de cire à cacheter, portant les mêmes initiales que l'étui déjà repêché dans ces conditions, en maintenait la bonde hermétiquement fermée.
« Du même au même !» dit le capitaine Servadac.
Le baril fut ouvert avec précaution, et on y trouva le document dont la teneur suit. « Galia, Absolé, au 1er mars, distance 78 millions de lieues. Chemin parcouru de février à mars, 39 millions de lieues. Va bene, all right, nil desperandum, enchanté. Et ni adresse ni signature, s'écria le capitaine Servadac. On serait tenté de croire à une série de mystifications.
Ce serait alors une mystification tirée à un grand nombre d'exemplaires, répondit le comte Timachev. Car, puisque deux fois nous avons recueilli ce singulier document, c'est que son auteur a dû semer ses barils et ses étuis sur la mer.
Mais quel est donc ce savant écervelé qui ne songe même pas à donner son adresse ?
Son adresse, c'est le fond du puits de l'astrologue, répondit le comte Timachev en faisant allusion à la fable de la fontaine.
C'est bien possible, mais où est le puits ?
Cette demande du capitaine Servadac devait encore rester sans réponse.
L'auteur du document résidait-il sur quelque îlot épargné dont la Dobryna n'avait pas eu connaissance ? Était-il à bord d'un navire courant sur cette nouvelle Méditerranée, ainsi que l'avait fait la goélette ? On ne pouvait le dire.
« En tout cas, fit observer le lieutenant Procope, si le document est sérieux, et les chiffres qu'il porte tendent à le prouver, il donne lieu à deux observations importantes. La première, c'est que la vitesse de translation de Galia a diminué de 23 millions de lieues, puisque le chemin parcouru par elle de janvier à février, et qui était de 82 millions de lieues, n'est plus de février à mars que de 59 millions. La seconde, c'est que la distance de Galia au Soleil, qui était de 59 millions de lieues seulement au 15 février, est au 1er mars de 78 millions, soit un accroissement de 19 millions de lieues. Donc, à mesure que Galia s'éloigne du Soleil, sa vitesse de translation sur son orbite diminue, ce qui est parfaitement conforme aux lois de la mécanique céleste.
« Et tu en conclus, Procope ?» demanda le comte Timachev.
Que nous suivons, comme je l'ai déjà remarqué, une orbite elliptique, mais dont il nous est impossible de calculer l'excentricité.
J'observe en outre, reprit le comte Timachev, que l'auteur de ce document se sert encore de ce nom de Galia. Je propose donc de l'adopter définitivement pour le nouvel astre qui nous entraîne, et d'appeler cette mer la mer Galienne.
Oui, répondit le lieutenant Procope. Et je l'inscrirai sous ce nom lorsque j'établirai notre nouvelle carte.
Quant à moi, ajouta le capitaine Servadac, je ferai une troisième remarque. C'est que ce brave homme de savant est en plus enchanté de la situation. Et quoi qu'il arrive, je répéterai avec lui partout et toujours « Nil desperandum ».
Quelques heures plus tard, la vigie de la Dobryna avait enfin connaissance de l'île Gourbie.